Verdun.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission un peu particulière ce soir qui va vous faire faire le tour du monde avec le changement climatique et les préoccupations sur la consommation d'hydrocarbures, d'énergie fossile. Les politiques de transport cherchent à favoriser des alternatives à la voiture, notamment dans les villes qui étouffent sous les gaz d'échappement. Les mobilités douces ont donc le vent en poupe et en premier lieu le vélo. En selle, à bicyclette, avec les radios partenaires des médias francophones publics, Radio France, Radio-Canada, la RTBF, Radio-Télévision Belge Francophone, la RTS, Radio-Télévision Suisse et bien sûr, RFI. C'est l'un des rares secteurs économiques à avoir profité de la crise sanitaire. Les vélos électriques enregistrent des ventes records en France. 500 000 ont été vendus en 2020 à Paris. Le phénomène est en plein essor, favorisé par l'aménagement de nouvelles pistes cyclables et des aides publiques pour l'achat d'un vélo. La crise sanitaire du Covid a aussi accéléré le mouvement. Beaucoup se sont convertis au vélo pour éviter les transports en commun bondés. Et pour répondre à l'explosion de la demande, c'est tout un écosystème qui se développe autour du vélo électrique. Des magasins, des emplois, des services. Reportage Sandy Dauphin de France Inter.
On est sur une piste cyclable qui part de la banlieue sud et qui va dans le centre de Paris jusqu'à Montparnasse. Il y a énormément de monde.
Oui. Alors moi je m'appelle Caroline. Je travaille dans un service commercial chez un assureur. Et je fais le trajet de la banlieue sud, juste au sud de Paris, jusqu'à la banlieue nord. Donc je traverse tout Paris. Ça fait à peu près 18 km.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à passer au vélo électrique ?
À cause du Covid, donc on a été confinés. Et suite au déconfinement, j'ai recommencé à aller travailler. J'ai à peu près 1h15 de transport avec plusieurs changements. Donc j'en ai eu marre. Et puis aussi, ça permettait d'éviter d'être accolé aux gens. Parce qu'effectivement, quand on nous a autorisé à retourner au travail, il y avait quand même pas mal de monde dans les transports. Aux heures de pointe, en tout cas.
Qu'est-ce que ça change pour vous d'être à vélo électrique ?
C'est une énorme liberté. Ça me fait du sport. Ça me met de très bonne humeur. Je crois qu'un des plus grands plaisirs, c'est de redécouvrir Paris. Et là, on arrive à la Seine et c'est une vue absolument magnifique. Et voilà, on y va. Alors, attention. Voilà, ça, c'est un con. Il y a des voitures qui n'ont toujours pas compris qu'il faut qu'elles partagent la route. Mais bon, on va y arriver.
Les gens qui vont travailler à vélo, comme Caroline, on les surnomme les vélo-taffeurs. Ils sont de plus en plus nombreux dans Paris. Les ventes de vélos électriques s'envolent.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez bien ?
Ça va. Je suis Virgile Caillé, je suis le délégué général de l'Union Sport et Cycle, qui est le syndicat professionnel du secteur. À la fois les industriels, à la fois la distribution, les assembleurs, les importateurs, et on voit que c'est un secteur qui est en pleine ébullition actuellement.
Alors, on se trouve tout près de l'une des nouvelles pistes cyclables de Paris, hein, qui longe la Seine, rive gauche, qui passe notamment devant la Tour Eiffel, les Invalides et encore le Musée d'Orsay. Est-ce que ça, c'est l'une des conditions pour développer le vélo électrique dans Paris ?
Alors, c'est bien évidemment une des conditions primordiales. Ce vélo assistance électrique va complètement révolutionner le marché. Entre 2019 et 2020, on voit qu'il y a une augmentation des ventes, presque 30% d'augmentation, alors qu'on était déjà sur des taux d'augmentation extrêmement forts sur les années précédentes. En 2020, on en aura vendu plus de 500 000. Une courbe de progression qui devrait nous conduire vers près d'un million de vélos assistance électrique d'ici 2024. Vous le voyez, un marché effectivement en plein essor.
C'est quoi ? C'est beaucoup d'importations ou est-ce qu'il y a quand même quelques fabrications françaises ?
Alors, il y a bien entendu encore beaucoup d'importations, mais on voit que les industriels français considèrent qu'on devrait être à une augmentation de 40% de la production en France. Mais il y a des vraies réflexions qui se sont engagées durant la crise sur comment faire en sorte que l'Europe soit un petit peu moins dépendante du marché asiatique. On relocalise en Europe. Et on commence à réindustrialiser en France.
Et les magasins spécialisés poussent comme des champignons dans Paris. Yann Nicolin est le responsable du magasin de vélos électriques Ecox dans le quartier Montparnasse. Ces derniers mois, ses ventes ont doublé.
Là, je suis en train de changer une chambre à air d'une cliente qui a crevé ce matin.
Quand on ouvre une boutique de vente de vélos électriques à Paris, on est obligé d'assurer un service après-vente de réparation, de révision ?
Ah oui, c'est obligatoire. Nous sommes des boutiques de proximité. Donc nos clients, en fait, passent régulièrement la porte, ne serait-ce que pour un coup d'air dans les pneus. C'est du service, on a besoin d'être présent, ça les rassure.
Vous avez une cliente ?
C'est pour la révision.
Je vais rentrer ce matin. On va regarder. Hop.
Alors, on voit qu'il y a beaucoup de révisions. Est-ce que il y a des métiers qui reviennent comme réparateur de vélo ?
Alors oui, il y a vraiment un besoin de mécaniciens vélo. Plus il y a le vélo dans Paris, plus il y aura besoin de réparer, de la crevaison, de la révision, de le changement de pièces classique dans l'entretien de vélo. Donc il y a vraiment une vraie demande de mécaniciens. Les jeunes qui sont en recherche de filières, il faut vraiment pas hésiter. Aujourd'hui, c'est un secteur qui va recruter. Et aujourd'hui, Paris est en manque de mécaniciens. Il y a du travail. C'était un petit trou.
C'est un petit trou ?
Ouais, il y a rien. C'est fait en tout cas.
Et c'est déjà fait. Bravo. Nous sommes au cœur de Paris, rue de Rivoli qui longe le musée du Louvre. Alors cette rue très commerçante est devenue une piste cyclable depuis quelques mois. Les voitures sont interdites, sauf quelques véhicules autorisés. C'est une petite révolution à Paris, une vélorution, disent les défenseurs de la bicyclette. Et avec l'apparition de ces pistes cyclables, on voit de plus en plus d'entrepreneurs et d'artisans à vélo. Ils ont désormais leur propre association professionnelle. Elle s'appelle les boîtes à vélo. J'ai rendez-vous avec l'un de ses responsables, Philippe Gentil. Qu'est-ce que c'est les boîtes à vélo ?
Alors les boîtes à vélo, c'est l'union des professionnels à vélo, donc les chefs d'entreprise qui ont choisi le vélo comme véhicule utilitaire au sein de leur entreprise. Alors bien sûr de la cyclo-logistique, hein, les livreurs à vélo qu'on voit de plus en plus en ville, mais des jardiniers paysagistes, des ébénistes, des déménageurs, voilà, il y a tous les métiers sont éligibles au vélo.
Quelle est leur particularité ?
La particularité quand on travaille à vélo, c'est qu'en effet on développe une clientèle locale. C'est-à-dire qu'on revient à un service de proximité parce qu'on peut aller là où les personnes, les artisans motorisés ne peuvent pas aller. Mais il y a une notion écologique, bien sûr, qui touche toutes les personnes qui utilisent le vélo au niveau professionnel. Mais il y a surtout une dimension économique. Parce qu'un vélo cargo, donc vélo utilitaire, peut transporter entre 100 et 150 kilos lui-même. Et on peut rajouter une remorque qui peut porter jusqu'à 300 kilos. Donc on est presque à une demi-tonne à vélo, de manière très sécurisée, pour aller partout en ville. Donc c'est extrêmement pertinent.
Muriel, bonjour, c'est le plombier.
Simon Leprince est l'un de ces artisans qui dépannent en vélo cargo électrique dans Paris. Il travaille pour une start-up cycloplombier.
Hop.
Donc ça, c'est la caisse à l'avant. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre...
Donc je mets mes outils, donc ce qui est par exemple la perceuse, ma caisse à outils. Donc le plus important quoi déjà, et puis après je rajoute.
Vous étiez plombier en camionnette avant à Paris ?
J'étais plombier en camionnette.
Ça change quoi ?
Bah que c'est beaucoup moins stressant. Moi en camion j'étais trop stressé, trop de bouchons, trop de trafic. Et là je le ressens pas quoi, je me faufile et il n'y a pas d'essence à payer, il n'y a pas de stationnement à payer. Surtout qu'à Paris les stationnements sont extrêmement chers. Donc ce qui change la donne complètement. C'est sûr qu'on va pas faire des gros chantiers, on va pas refaire des salles de bain, des choses comme ça. Donc ça reste quand même du dépannage. Changer un siphon ou changer un mitigeur, toilette bouchée, donc tout ça, ça se fait à vélo. Voilà.
Je vérifie si tout va bien là, ouais, c'est bon, je suis verrouillé, c'est parti.
En 2020, 11 000 vélos cargo se sont vendus en France, c'est deux fois plus que l'année d'avant.
Plus de vélos et plus de place pour le vélo, ça fait fatalement moins de place pour les autres modes de transport et ça crée des tensions. À Bruxelles, entre cyclistes et automobilistes, elles sont palpables sur la route mais aussi sur les réseaux sociaux. Accrochages, insultes, menaces. La politique de mobilité est en train de transformer la capitale belge et européenne. Il faut désormais circuler sur la majorité des artères bruxelloises à 30 km/h. Plus de 40 km de pistes cyclables ont été créées en un temps record après la pandémie. Et pendant la pandémie, dans les cartons aussi, une taxe kilométrique intelligente et la fin des voitures thermiques à partir de 2030. Comment apaiser ces tensions ? Le reportage à Bruxelles de Jérémy Van Beleghem et Aline Wavreille de la RTBF.
C'était début mai. La vidéo d'un cycliste qui se fait renverser volontairement par une voiture dans le centre de Bruxelles circule sur Twitter avec ce message.
Une fin tragique. Mon vélo va bien, Et moi, je n'ai que quelques égratignures.
Plus de 65 000 vues pour quelques minutes que Stéphane, 50 ans, n'oubliera pas.
C'était le 1er mai. J'allais pour m'engager sous l'arche alors qu'une voiture est arrivée à toute vitesse pour me couper la route. Donc c'est impossible de passer à deux. Donc j'ai pilé sur les freins. Et bon, comme tout être humain, est sorti un gros mot. Donc le monsieur, il s'arrête ici après le passage pour piétons, donc quelques mètres après, je continue, et en passant à côté de lui, je dis, mais enfin, j'étais quand même devant. Tout gentiment. Et là-dessus, il me répond, ta gueule. Et il démarre en faisant crisser ses pneus. Et là, il m'a foncé dessus, en fait.
C'est la chute, quelques douleurs musculaires, et puis surtout l'impression de l'avoir échappé belle.
Ça grimpe, cette agressivité. Je fais entre 600 et 700 km par mois dans Bruxelles. On reçoit encore des menaces, des fois c'est même gratuit.
C'est sûr que ces derniers temps, on a de plus en plus de cas qui nous remontent.
Aurélie Willems, secrétaire générale du GRAC, l'association qui défend les cyclistes à Bruxelles.
Des personnes qui subissent des tensions sur la route, parfois des agressions. Heureusement, ça reste des cas assez rares. Et donc on constate ça aussi sur les réseaux sociaux, hein, donc y a pas mal de groupes qui s'animent.
Et parfois, ça va très loin. Dans certains messages, l'agressivité peut avoir des relents de haine. L'année dernière, la ministre bruxelloise de la mobilité, l'écologiste Elke van den Brandt, a été menacée de mort sur un groupe Facebook pro-voiture. Elle est pire qu'un virus.
Elle ne sait pas qu'une voiture pourrait l'éliminer.
On aura sa peau.
La ministre a d'ailleurs bénéficié un temps d'une surveillance policière. Ces tensions, c'est une réalité à Bruxelles. Mais à vrai dire, on ignore dans quelle mesure. Il n'y a pas d'indicateurs. Et puis, il faut aussi les relativiser.
Je suis David Stevens, je suis inspecteur principal et je suis le chef de la brigade cycliste à Bruxelles Capitale XL. Je pense surtout que voilà, il y a certains conducteurs, donc à voiture par exemple, qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent vraiment être courtois, qu'ils doivent respecter les règles. Je veux quand même aussi préciser que c'est une minorité de gens qui font des infractions. Donc c'est toujours la grande majorité qui respecte bien la cour de la route, qui est courtois.
Vous verbalisez autant les automobilistes que les cyclistes ?
Tout à fait. Donc chez nous, il n'y a pas de différence. Donc bien sûr, on va travailler aussi sur des infractions qui sont quand même assez dangereuses. Mais aussi des cyclistes qui sont verbalisés quand ils brûlent le feu rouge, quand ils se mettent eux-mêmes ou des autres en danger. Et surtout aussi dans le piétonnier ou autour, où le cycliste a un peu repris le rôle de l'automobiliste. Et maintenant aussi, le usager fort, on va dire. Et comme ça, on ne va pas tolérer que des cyclistes mettent en danger des piétons. Mais on va aussi pas tolérer que des automobilistes mettent en danger des cyclistes.
On va tous se resserrer pour laisser passer le bus.
L'histoire est donc plus compliquée qu'un simple bras de fer entre voiture et vélo. On bouge aussi en trottinette à Bruxelles, en scooter. Et le premier moyen de déplacement, c'est la marche. Reste que ces derniers mois, le nombre de cyclistes a explosé dans les rues. 60% d'augmentation en 2020 par rapport à 2019. Le coronavirus est passé par là.
J'ai acheté un vélo électrique pour mieux me déplacer et pas utiliser les transports publics tout le temps.
Plus de cyclistes et donc plus de tensions. L'équation tient la route. Abdel est chauffeur de taxi depuis 10 ans.
Je ne vais pas dire que je suis en tension avec eux, seulement on voit des cyclistes très imprudents. Ils ne portent pas toujours des vêtements clairs qui nous permettent de les voir. Donc oui, c'est ça, c'est que dans un angle mort, on ne les voit pas et qu'on les fasse tomber. Leur comportement n'est pas toujours facile à prévoir.
Ce qui a changé la donne aussi il y a peu, ce sont ces nouvelles mesures décidées par le gouvernement bruxellois. Depuis janvier, la vitesse de croisière à Bruxelles, c'est désormais 30 km/h. Le grand plan de mobilité passe du papier au chantier, avec des changements de circulation pour apaiser les quartiers. Sans compter les 40 km de pistes cyclables, qui sont venues grignoter de l'espace aux voitures.
On a toujours dit non au tout à la voiture. On est d'accord parce que c'est extrémiste. Eh bien, c'est une grave erreur ce qui se passe maintenant parce que c'est tout à la mobilité active. C'est un autre extrémisme.
Lorenzo Stefani de Touring, l'association de défense des automobilistes.
Les gens veulent venir en voiture, mais les axes sont réduits. Les limitations ont changé. Il faut se concentrer sur les panneaux. Tout d'un coup, il y a une piste cyclable qui est apparue du jour au lendemain avec des bandes rouges sur le sol. Et donc, on doit s'arrêter. C'est des risques d'énervement, d'accident. Et on le regarde plus devant soi. Et donc, toutes ces infrastructures et tout ce système de mise en place à la va-vite pendant ce Covid crée des situations et des conflits, des énervements qui, on le sait, toutes les études l'ont prouvé, plus on est énervé et plus on augmente les risques d'accident.
Et d'autres projets sont dans les cartons. La taxe kilométrique intelligente, plus on roule, plus on paye. La fin des voitures thermiques prévue pour dans un peu plus de 10 ans. Elke Van Den Brandt est la ministre bruxelloise de la mobilité et de la sécurité routière.
Je pense que l'urgence est là. Chaque matin, tout le monde est dans des embouteillages. Ça nous coûte au niveau de stress, on perd du temps. Mais c'est une question de santé, santé publique. La qualité d'air à Bruxelles est pas bien. Et ça touche aux santé de nos enfants. Les enfants qui agrandissent à côté d'une artère routière ont des poumons mal développés. Il y a plus des enfants avec l'asthme. Alors c'est vraiment une question d'urgence médicale aussi. Alors il faut agir. On peut pas juste tolérer qu'on a de plus en plus d'embouteillages à Bruxelles. C'est pour ça qu'il faut maintenant prendre action.
Bruxelles veut donc donner un coup d'accélérateur à sa transformation. C'est assumé. Il faut donc penser solution. Là-dessus, tout le monde est d'accord.
Ah, la solution, c'est oui, de repenser la ville hein, pour que tous les usagers et leur place.
Une cohabitation. Ça doit être l'objectif de base.
Les voitures, elles ne vont pas disparaître, les piétons non plus, les bus non plus. Donc il faut au fait apprendre petit à petit à cohabiter avec tout ceci.
Ça passera sans doute par de nouvelles infrastructures séparées pour que chacun ait sa place en fonction de sa vitesse. Mais aussi par une meilleure communication. Souvent, les tensions s'allument parce qu'on ignore les règles des uns et des autres.
Ça va ? Allez, ben on est parti, hein.
Alors, l'ASBL ProVélo sillonne la ville avec les cyclistes pour leur rappeler leurs droits et leurs obligations. Ce soir-là, c'est Valentine Smeyers qui est la formatrice.
S'il y a une voiture qui arrive à ma gauche, ben, je peux essayer peut-être de tourner court, mais en tout cas, je dois ralentir pour qu'elle ne se sente pas non plus un peu dépourvue si elle voit qu'il y a un cycliste qui se met devant elle. Ça va, on ne peut pas se mettre devant elle.
Elle y aborde aussi ses tensions.
Moi, je dis toujours que je réponds généralement par un grand sourire. Ça, parfois, tend à apaiser un petit peu la personne. Parfois pas. Ben voilà, mais ce qui est important, c'est que si on connaît nos propres droits, on a aussi de l'argumentation. Et donc on peut expliquer, parce que comme on a des nouvelles législations, des nouveaux panneaux, parfois il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, et juste prendre le temps, 2 minutes de leur expliquer en disant, ben voilà, moi j'ai fait cette manœuvre-là parce que j'avais le droit de le faire, ben ça peut parfois un petit peu apaiser la tension aussi.
Ces tensions entre piétons, cyclistes, automobilistes, ça fait aussi partie du processus d'une ville en transition. On l'a observé ailleurs, en Europe. C'est peut-être une mauvaise passe pour Bruxelles, le temps de se remettre en selle.
Au Canada, comme ailleurs, le coronavirus a fait grimper les ventes de vélos. Au printemps 2020, en plein confinement de la première vague, beaucoup se sont tournés vers le deux-roues afin de se changer les idées et se bouger un peu. À tel point que, rapidement, les détaillants ont été confrontés à une pénurie et un an plus tard, cette demande ne fléchit pas, bien au contraire. Voici le reportage de Mathieu Bellumeur de Radio-Canada.
Écoute, les magasins vides. Je pense que moi, ça fait bon, un mois et demi, je suis pas venu. Peut-être deux. Fait que j'ai jamais vu vide comme ça.
Marc-André Lebeau est propriétaire de 7 magasins de vélos.
Tout a été vendu. Je pense qu'en haut, c'est pire. Là. Ah, c'est ça. Écoute, c'est spectaculaire ce qu'on vit. Là. Ça, le site, c'est plein. Là.
Il nous a donné rendez-vous à la succursale de bicycles Kélico dans le quartier Rosemont, à Montréal.
Nos vélos qui s'en viennent, quand on les reçoit, il y a 8 sur 10 de pré-vendus. Là, quand tu vois une facture, là, comme le bleu, il est vendu, il y a une facture dessus. Ça veut dire qu'il est vendu, mais on les laisse plancher.
Pour que ce soit trop vide.
Même dans le sous-sol de son magasin, qui lui sert d'entrepôt, il ne reste à peu près plus de vélos neufs pour la vente.
Longtemps, je suis allé en bas, mais il doit pas avoir beaucoup de stock. Une pénurie comme ça, tu sais, j'en faisais un running gag l'année passée parce que les gens se sont battus pour du papier de toilette dans les Costco. Mais là, on le vit dans les vélos. Moi, je pensais jamais ça. Là, c'est la chaîne d'approvisionnement au complet qui est difficile. Donc, les compagnies comme Shimano ou des compagnies de composantes, on n'a pas idée que comment ils sont importants dans la chaîne. Il y a des compagnies qui nous disent « Vos vélos, vous ne les aurez pas avant juillet parce que la compagnie de freins X ne peut pas nous livrer les 200 000 freins avant juillet. Le vélo est prêt sur la chaîne de montage. Il n'y a pas les freins. L'autre n'a pas les fourches. L'autre n'a pas les pneus. » Donc, c'est tout de cause à effet. Puis les gens, les fabricants sont pris avec ça.
Même son de cloche pour Anthony Néron, dont la famille possède les 4 magasins Cycle Néron dans la région de Montréal.
Comme un exemple, on en a eu 120, je pense, jeudi ou vendredi passé.
qui ont duré la fin de semaine. Ça a été parti, comme même le mois de mars, là, on a même triplé les chiffres, là, c'est incroyable. Là, on n'a jamais vu ça autant. Si vous en trouvez un stock, achetez-les tout de suite.
Et la pénurie s'étend à l'ensemble du Canada.
Des fois, ils viennent avec du quick release, disons. Là, ouais, ceux-là, ils viennent comme sans quick release, j'imagine, pour un aspect aérodynamique.
Pas simple dans ce contexte pour les consommateurs. D'autant qu'il y aurait plus d'adeptes de vélo depuis le début de la pandémie.
Oui, dans les boutiques qu'on a fait, les boutiques sont vides. Donc, c'est plus difficile. Et c'est pas comme s'il y avait l'embarras du choix.
J'ai vendu mon vélo à la fin de l'année dernière, fin de l'été dernier. J'ai vendu mon vélo parce que c'était la folie. Tout le monde en cherchait un, donc c'était le bon moment de vendre mon vieux vélo. Pensant que je pouvais m'en procurer un rapidement au début du printemps. Et malheureusement, bien que je l'ai réservé il y a 2 mois, c'est sold out partout.
Je vous dis que j'étais relativement chanceuse. C'est le premier magasin que j'ai fait, puis c'est le seul qui restait. Mais j'ai été magasinée ensuite, puis il n'y a aucun inventaire nulle part, là.
Vous étiez cycliste avant? Est-ce que la pandémie...
Non, c'est la pandémie. La pandémie m'a fait faire du snowboard tout l'hiver pour la première fois, puis je me cherchais une autre activité pour l'été. Quoi de mieux que le vélo pour commencer? Donc, c'est la pandémie là qui me convertit en cycliste.
Et si vous vous tournez vers les vélos de seconde main, ils partent vite et les prix sont plus élevés.
Bien, il y a beaucoup d'usagers sur Marketplace qui gigent, mais ils sont quand même chers. Fait que les gens savent qu'il y a une pénurie, fait qu'ils vendent cher leurs usagers.
L'industrie n'est pas capable de répondre à la demande.
David Régnier-Bourque est directeur du développement des affaires chez Cycle de Vinci, la seule entreprise au Canada à fabriquer à l'échelle industrielle des cadres de vélo.
Nous, on fait les cadres de vélo ici à l'interne, mais on s'approvisionne en composantes comme des pneumatiques et des systèmes de changement de vitesse qui viennent d'un peu partout. Et puis, les compagnies ne sont pas capables de doubler leur production là, au niveau de toutes ces composantes-là. Donc, ils sont capables d'augmenter leur efficacité de production de 10 à 20 %, mais de doubler leur production, là, c'est malheureusement pas quelque chose qu'on est capable de changer du jour au lendemain.
Et les pièces pour assembler les vélos sont difficiles à obtenir. Le transport est un autre gros problème, dit-il.
Donc, il y a une crise de transport international au niveau du transport maritime avec une immense pénurie de containers. Donc, les coûts de transport ont plus que quintuplé. Là. Donc, c'est difficile. C'était impossible pour nous de pouvoir continuer avec les mêmes taux frais d'opération. Donc, on a dû ajuster nos prix. Mais c'est certain que le transport sur le prix d'un vélo complet, c'est pas la plus grosse portion. Donc, les prix ont pas augmenté énormément. Là. C'est assez minime.
Si vous avez pensé à reporter à l'an prochain votre projet d'achat, vous pourriez bien vous faire prendre de nouveau.
Puis l'enjeu qui se passe en ce moment, c'est que les ateliers bâtissent des vélos qui sont en retard. Puis je crois que 2022 va être encore plus difficile. Parce que l'année passée, on a vécu une surdemande, mais les vélos étaient produits. Les productions en 2021 étaient produits, ils ont pu mettre les gaz à fond, s'adapter. Mais là, le fait qu'il n'y ait plus de vélos...
Les compagnies de vélos s'approvisionnent principalement à la même place. Donc, ce qui fait que quand on a une croissance mondiale comme on vit présentement, bien, c'est dans tous les marchés qu'il y a une expansion.
On ça en gravel. L'hybride, lui, il va être conçu justement pour la distance, comme je disais, jusqu'à 50 km.
Puis en ce moment, le mot d'ordre, c'est on achète tout ce qu'on peut. On a un certain pouvoir d'achat. On a des très bons fournisseurs. Mais un jour, il va peut-être avoir un mur qui va arriver. Puis nous, on est déjà en train de travailler là-dessus parce que c'est beau de dire c'est facile de vendre, mais quand le mur va arriver, il faut les payer quand même, ces stocks-là. Puis à un moment donné, le marché va se régulariser. Puis il y a des stocks qui déprécient pas vite dans notre domaine, il y a des stocks qui déprécient quand même. Donc, exemple dans la technologie, tout ce qui est les bases d'entraînement électronique et tout, en ce moment, il y a une sourde demande, les entraînements intérieurs, tout ce qui est virtuel. Mais c'est comme les iPhones. Si je reste pris avec 200 iPhones génération X, puis que c'est la génération Y qui s'en vient, bien, je veux dire, à un moment donné, il va falloir les liquider. Fait que ça nous travaille quand même dans la tête. Puis ça fait qu'il y a quand même un aura d'incertitude qui nous empêche de dire, hey, on peut juste y aller à fond. Il faut quand même rester, je pense, quand même assez terre à terre.
Pour les chanceux qui ont pu mettre la main sur un vélo, L'heure est maintenant à la découverte de leur coin de pays, les voyages à l'étranger étant fortement découragés.
Mais là, on a battu notre record au Québec l'année passée. Fait que c'était une super saison. On a commencé plus tôt, puis on a fini plus tard aussi, au mois de novembre, par rapport à ce qu'on faisait habituellement. Ça nous a empêchés de faire nos voyages de vélo à l'extérieur. Fait que ça, c'était un gros impact important. On faisait des voyages, un voyage, des fois deux voyages de vélo à l'extérieur, soit à Cuba, soit en Europe. Par contre, l'année passée, ce qu'on a fait, on s'est mis à circuler un petit peu plus au Québec. On est parti sur des périodes de 2-3 jours. On se réservait des places dans les motels, en Estrie, à Gatineau, à différentes régions.
Le vélo est donc en train de prendre possession des villes occidentales. En Chine, c'est un peu différent. C'est un mode de transport historique qui a en plus pris la vague du libre accès via smartphone. Après des faillites retentissantes et des cimetières à vélo à ciel ouvert dont les images ont fait le tour du monde, la Chine fait le ménage dans le secteur e-parking et crédit social pour contraindre les utilisateurs à ne pas reposer leur bicyclette n'importe où. Loi contre les monopoles, quota de vélo, les autres autorités entendent réguler un marché qui a transformé les rues des mégapoles chinoises en véritable jungle urbaine. À Pékin, le reportage RFI de Stéphane Lagarde et Wang Chengkuang.
Des vélos qui vous disent hello, ni hao. Seules trois compagnies sont désormais autorisées dans la capitale chinoise. Trois couleurs, bleu, jaune et vert. Dong et Zhou ont choisi les jaunes. Ces deux jeunes femmes sont employées dans une agence de design du nord-est de Pékin. Dans le panier avant de la bicyclette, tote bag tête de chat pour l'une, deux pamplemousses pour l'autre. Elle rentre du travail.
C'est plus sympa quand on roule à plusieurs. Moi, je vais jusqu'à la station de métro. Tiens, celui-ci est cassé.
On en prend un autre, on ne peut pas utiliser celui-là. C'est rare aujourd'hui de voir des vélos en mauvais état. Il y a une piste cyclable qui va jusqu'à chez moi. C'est pratique, c'est écologique et c'est bon marché.
Pratique et bon marché et en meilleur état qu'il y a quelques mois. Les vélos partagés sont le mode de transport préféré de ce quartier de la high-tech à Pékin et des jeunes gens en âge de pédaler. Allez, un coup de sonnette et on suit ces utilisateurs jusqu'au métro. Piste cyclable sous les échangeurs de béton. Depuis quelques semaines, de grands rectangles blancs sont apparus sur les trottoirs. Nous sommes dans le quartier des universités où le concept de ces vélos sans attache a démarré. En cette fin d'après-midi, la foule jeune et masquée semble aspirée par les entrées du métro, mais avant cela, il faut garer sa bicyclette. Au carrefour, une mamie en gilet jaune donne des indications, elle parle vraiment comme ça. Sa voix est amplifiée par le mégaphone qu'elle porte en bandoulière.
Les vélos sont équipés de GPS. Il faut les reposer dans les zones marquées par une ligne blanche. Il faut aller de l'autre côté de la rue, à droite et à gauche du feu rouge. Vous avez des emplacements.
Alors, c'est un bon exemple. On ne s'est pas garé au bon endroit. Ça, c'est un parking pour les jaunes. Et nous, on doit aller dans un autre endroit. Attention à bien se mettre à l'intérieur des lignes blanches, on a testé, en dehors, le verrou ne s'enclenche pas. Plus de 4000 de ces e-parkings ont été mis en place ces dernières semaines à Pékin. Au téléphone, un universitaire et expert de l'économie du vélo, loin de la capitale pourtant, mais qui a préféré garder l'anonymat.
Le développement des vélos partagés a d'abord été anarchique, ce qui a causé des problèmes sociaux et de la pollution. Il y a eu un grand gaspillage de vélos, beaucoup ont été détruits. Heureusement, ça s'améliore grâce aux mesures prises par le gouvernement et à la technologie qui empêche de se garer en désordre.
Des mesures de contrôle, le crédit social pour réprimer les mauvais usages, mais aussi des restrictions imposées aux plateformes et aux géants du e-commerce afin d'empêcher une extension désordonnée du capital, comme le disent les médias d'État. Cette fois, on a pris le TGV plus la voiture pour se rendre dans les villages-usines à vélo, non loin de Tianjin, la mégalopole portuaire à l'est de Pékin. Un coq chante à côté du balai des camions sur la nationale, les pièces de vélo s'entrechoquent au moment du chargement. Assis sur leurs valises, ces jeunes gens affichent un grand sourire. L'entretien chez un fournisseur de vélos partagés s'est bien passé, explique Jenny, arrivée de la province du Hebei.
Le salaire dans cette usine est meilleur qu'ailleurs, parce qu'ici, il y a beaucoup de travail et on peut faire des heures sup. D'autres usines ne demandent que 10 ou 11 heures de travail par jour, mais ici, nous pouvons travailler 13 heures.
Le boom de la demande post-Covid a relancé le secteur après les faillites en chaîne il y a 3 ans. Allongé sur un carton, Liu Raibo profite de la pause. 3 ans justement que ce jeune manutentionnaire a le nez dans les guidons.
Nous produisons des guidons pour vélos et vélos électriques. Presque toutes les usines de ce district fabriquent des vélos. L'économie locale se porte bien. La plupart des gens qui travaillent ici ont moins de 30 ans. pour moi, c'est intéressant. Alors bien sûr, il y a des saisons moins dynamiques que d'autres. Il est normal de voir une année chargée et une année moins chargée. Le mois de mai, par exemple, c'est une saison creuse. La haute saison, c'est entre juillet et décembre. On fait des guidons pour tout le monde, vélos électriques, vélos et même vélos partagés. En ce moment, on a plus de commandes pour les vélos sans électricité et les vélos partagés.
La Chine sort du cauchemar des vélos sans amarre. Le libre partage de bicyclettes made in China fait partie des quatre innovations majeures de la Chine moderne, écrivait en 2017 l'agence d'État chinois juste avant la déconfiture.
Les entreprises se sont engagées dans une guerre des prix pour attirer les utilisateurs. Ce n'était pas durable. Et ces vélos empilés partout ont donné une mauvaise réputation à l'industrie. Le contrôle de qualité, la gestion du parc des vélos en libre service est très important. On appelle cela l'effet fenêtre cassée. Plus un objet public est en bon état, plus l'usager en prend soin et inversement.
Retour à Pékin. Dans la rue des Fantômes, connue pour ses restaurants de fruits de mer, Sun Wanto est au début de la chaîne de récupération des vélos mal garés. Ce Baowan, cet agent de sécurité, tenue noire et brassard rouge comme on en croise dans toutes les rues chinoises, tient à distance les vendeurs ambulants, surveille les poubelles et les bicyclettes.
Ma responsabilité, c'est que la rue reste civilisée, mais parfois, les vélos s'accumulent au mauvais endroit. Les gens les remettent n'importe où quand il y en a plus de 10 mal garés. Je prends une photo et je préviens le groupe de travail qui vient les chercher.
Ne pas laisser trop longtemps traîner les vélos en libre accès, la nature a horreur du vide. Malgré le service de collecte mis en place par la voirie, des grappes de deux roues colorées empiètent sur la rue, devant l'hôpital numéro 3 de l'université de Pékin. Madame Wang, 51 ans, y travaille.
Je prends régulièrement le vélo après le travail. Et là, vous voyez tous ces vélos, on ne peut plus marcher sur le trottoir. Certains soirs, il y en a encore plus, ça bloque le trafic. Les employés doivent venir avec leur camion pour les embarquer.
Wenming Sheqing, Yochu Tingfu, pédalez de manière civilisée et garez-vous proprement, dit l'annonce lorsque l'on emprunte une des marques de ces vélos partagés à Pékin. On ne nous a pas autorisé à suivre les brigades de ramassage de ces vélos en désordre, mais nous avons trouvé où certains de ces camions se rendaient après la collecte. L'endroit n'est pas indiqué sur la carte. Derrière des palissades bleues, près d'une ligne de métro, un champ de vélos couché sur un parking. Nous courons après le petit camion jaune de la voirie qui vient de s'y engouffrer. À peine arrêté, la cargaison est déchargée sans ménagement. Nous sommes pressés, nous répondent les bras en action.
Ces vélos bloquaient la circulation, alors nous les avons amenés ici. Les plateformes viendront les chercher plus tard. On les dépose et on repart. Notre objectif, c'est de ne pas laisser les trottoirs et la chaussée envahis par les vélos. On fait 6 allers-retours par jour environ. À chaque trajet, nous avons une trentaine de vélos à l'arrière du camion.
Le camion est déjà reparti à l'entrée du parking sous une tente épicerie. La calculatrice de la marchande parle, elle aussi. Malgré les apparences, ce n'est pas un cimetière à vélo, mais une sorte de dépôt, confirme l'un des responsables des lieux.
Cet espace est fourni gratuitement aux entreprises de vélos en libre service. Ces vélos étaient mal garés. Il y a ici environ 2 à 3 000 vélos qui attendent d'être récupérés.
Avec les quotas, la capitale chinoise compte officiellement 800 000 bicyclettes sans attache contre 2,5 millions au moment où la bulle des vélos partagés a éclaté. Un chiffre qui, selon certains, serait sous-évalué. Wang Chengquang, Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
On va sortir des villes et tenter de prendre un peu l'air, de respirer un peu. En Suisse, la pratique du VTT, le vélo tout-terrain ou vélo de montagne, comme disent les Québécois, rencontre un succès exponentiel, renforcé encore depuis la pandémie de Covid-19. Mais là aussi, en pleine nature, cela pose des questions sur le partage de l'espace, sur les chemins et sentiers suisses. Écoutez le reportage de Joël Cachin de la RTS.
Tout doux, hein ? Tu vas pas trop vite au début ? Hop,
ouais.
Vous avez vu, bonne démonstration, donc tu peux y aller, vas-y.
Chaque samedi, c'est un rituel pour le vélo club des Chalands. Une ribambelle d'enfants a rendez-vous en forêt pour apprendre à manœuvrer son VTT. Et aujourd'hui, une dizaine de petits nouveaux s'apprêtent à passer des bosses.
Tranquillement. Ouais, un petit peu moins tranquillement quand même.
En 10 ans, ce groupe présidé par Vincent Métraud a doublé ses effectifs.
Voilà, debout.
On n'a jamais vu autant de monde sur les routes à vélo, notamment depuis l'année passée. Je
pense que le confinement a fait un grand boom. Puis c'est de la logique actuelle. Hein. On a besoin de choses simples. Et puis je pense que le vélo correspond complètement à cette pratique-là.
Ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
J'ai 8 ans, puis je m'appelle Lola.
Et pourquoi est-ce que tu as décidé de commencer le VTT ?
Bah, parce que je faisais souvent des tours avec mes parents et puis j'aimais bien, du coup, bah, je voulais faire un peu plus de VTT.
Qu'est-ce que t'as dû apprendre ? Qu'est-ce qu'il t'a dit là ?
Que je devais mieux amortir et puis de lâcher un peu plus les freins.
C'est dur de faire ses bosses ?
Non.
Comment tu t'appelles ?
Sacha.
À quel âge, Sacha ?
7 ans.
Et pourquoi t'as choisi le VTT ?
Parce que j'aime bien.
Je te laisse aller sauter alors.
Cet amour des deux roues se confirme dans les chiffres. Selon Vélo Suisse, les ventes ne cessent de grimper ces dernières années et en 2020, elles ont même augmenté de 27%. Parmi ces vélos, la moitié sont des VTT. Un succès qui a aussi ses revers.
Un peu des petites passerelles, hein ?
Ah ouais, la petite passerelle sur le ruisseau,
c'est dingue. Au début. On met d'abord des petits troncs, et puis après, tout d'un coup, on va voir apparaître un peu de terre, ça va être consolidé.
Sur les pentes de la commune de Blenay, le garde forestier Maxime Roth est souvent confronté à des pistes de VTT sauvages. Une pratique interdite en Suisse.
Donc ça, c'est une piste qui est assez nouvelle. En fait, on l'a entre guillemets, découverte en faisant l'entretien du chemin.
Ah ouais, donc là, on est sur le sentier, et puis il y a une sorte de sentier bis qui quitte le chemin.
Et puis, vous voyez, là, par exemple, ces branches, là, c'est des branches d'ifs de cet arbre ici, qui ont été coupées pour permettre le passage des vélos. Puis, l'if, en plus, c'est un arbre qui met beaucoup de temps à pousser, un arbre respecté, protégé. Et puis, c'est toujours embêtant quand on vient les mutiler.
Et l'impact sur la faune, comment on le mesure ?
L'impact, il est grand dans le dérangement, en fait. Et puis, surtout, aux périodes où les gens pratiquent. Comme maintenant, c'est la pleine période de nidification, la pleine période de mise bas pour les animaux qui vont aller essayer de se cacher un peu dans les fourrés. Et puis justement, à chaque passage répété de vélo, de promeneur, de chien, ça sera un dérangement supplémentaire et puis ça sera embêtant.
Alors comment organiser l'espace ? Pour Michel Bongard qui représente ProNatura, la réponse est claire.
Il faut utiliser les infrastructures existantes, pas multiplier en fait des pistes de descente un peu partout. Il s'agit de faire une pesée des intérêts, pas seulement les intérêts du tourisme et des loisirs, mais aussi les intérêts de la flore et de la faune et du paysage qui ont leur propre base légale dont il faut tenir compte.
Mais le tourisme, justement, est en pleine expansion.
Pour l'instant, le ski reste encore une des disciplines phares du tourisme de montagne, mais on sait qu'à terme, le tourisme 4 saisons est ce qu'on doit viser absolument.
Christian Parizeau dirige l'office du tourisme de Grillon, une petite station de moyenne montagne dans les Alpes vaudoises.
Alors nous sommes à Friens, à l'Alpe des Chaux, dans les hauteurs de la station de Grillon. On est entouré d'un magnifique cirque panoramique de montagne qui part depuis les Diablerets, le massif de l'Argentine et toute la chaîne jusqu'au Don du Midi.
Là, on est sur le lieu où vous allez créer un itinéraire de e-bike. Est-ce que vous pouvez montrer où il part, où il arrive?
Alors, le parcours sur lequel je vous ai amené, c'est ce qui va être dans notre projet le plus grand parcours de e-bike des 6 qu'on prépare, qui fera 62 km et qui sera le trait d'union entre nos stations des Alpes vaudoises, donc Villard, Grillon, Diablerets et Baie. On a déjà 11 itinéraires VTT purs et puis là on développe 6 parcours e-bike.
Et pourquoi c'était important de faire des itinéraires spécifiquement e-bike ?
Alors notre clientèle VTT a grandement évolué, on a de plus en plus d'e-bikes et maintenant les gens veulent aller beaucoup plus loin, plus longtemps. Donc l'idée c'était on a quand même un nombre de réseaux de chemins qui est limité, donc on voulait récupérer nos parcours VTT et puis les appondre avec de temps en temps des petites pirouettes pour passer d'un à l'autre et créer des propositions qui sont adaptées à la clientèle e-bike.
Mais en développant vos itinéraires, en proposant une offre toujours plus complète, vous amenez plus de gens en montagne, ce qui est votre but, mais est-ce qu'il y a la place pour tout le monde ?
Tout est dans la cohabitation, justement, et dans ces choix de parcours. On a des règles, hein. Il y a des largeurs de sentiers, il y a des endroits où on doit peut-être détourner un sentier. Si on canalise, on sait où les gens peuvent aller, on sait qu'on peut faire même des aménagements, on peut faire de la sensibilisation beaucoup plus facilement que si on laisse les gens aller où ils veulent. On travaille beaucoup sur cette cohabitation parce que le tourisme pédestre et le vélo doivent pouvoir exister ensemble.
Et pourtant, malgré une Suisse très balisée, il n'est pas toujours facile de cohabiter. En témoignent plusieurs courriers des lecteurs publiés dans la revue Les Alpes.
Quel randonneur n'a jamais été effrayé sur des sentiers de randonnée étroits et escarpés par un cycliste descendant à vive allure ? Les vététistes seraient à juste titre furieux si les randonneurs empruntaient leurs pistes. Alors l'inverse est bien sûr aussi vrai.
Faune, flore, randonneurs et vélo.
Allez, au suivant.
Comment accorder tout le monde ? On retourne à Échallens.
C'est bien, c'est bien. Il y a déjà des bonnes choses. Et ça, c'est votre assurance vie. Donc même si je n'emploie pas, j'ai toujours mes doigts sur les deux freins.
Pendant l'entraînement, vous enseignez un peu les aspects techniques pour le vélo, mais est-ce que vous sensibilisez aussi les jeunes à toutes ces problématiques, faire attention aux piétons, aux randonneurs, à la nature ?
Alors oui, clairement, c'est aussi un côté pédagogique, hein. Saluer les gens, enfin respecter les différents usagers, en tout cas pas se sentir comme le roi du monde. On vient vite, donc freiner, saluer, éviter de faire peur, notamment quand on vient depuis derrière. On essaye justement de leur expliquer le côté écologique et le côté règle. Et puis surtout de les mettre face à leurs responsabilités de futurs adultes.
Et donc c'est quoi la clé pour que tout le monde cohabite en paix dans ces forêts, dans ces montagnes suisses ?
Le respect. Donc essayer de faire en sorte que tout le monde accepte ses règles et puis qu'il y ait un petit bout de territoire pour chacun, quoi. Nos forêts sont magnifiques. Alors c'est peut-être un peu utopique, mais je pense qu'on arrive à cohabiter, il y a de la place pour tout le monde, oui.
Voilà, nous avons fait le tour du monde à vélo, quasiment en quelques dizaines de minutes. Et nous sommes désormais en ligne avec Frédéric Errand. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste des transports et de l'urbanisme à l'Université de Lille. Les mobilités douces, et singulièrement le vélo donc, c'est vraiment la nouvelle frontière du déplacement en ville. Il faut changer des choses.
Oui, bien sûr. Tout le monde sait que la voiture et l'excès de voitures provoquent des nuisances. Et d'importantes nuisances dont on n'a pas encore mesuré toute l'importance. Donc il faudra bien passer progressivement à d'autres modes de déplacement, plus respectueux de l'environnement, mais aussi des ressources de la planète, mais aussi de l'urbanité, enfin de la qualité de vie en ville, mais aussi à la campagne. Voilà, donc c'est indispensable.
Ce qu'on appelle mobilité douce, on va peut-être les lister quand même, parce qu'il n'y a pas que le vélo, il y en a d'autres aussi.
Oui, alors la première d'entre elles, c'est la marche, bien entendu. La marche, le vélo, la trottinette, quand elle n'est pas électrique, c'est encore mieux. Même chose pour le vélo mécanique, c'est meilleur pour l'environnement que le vélo électrique. On peut ajouter encore les rollers, etc.
Le marché du vélo, il s'est développé comment cette dernière année à l'échelle mondiale ? On a entendu tout au long de ces reportages qui nous venaient du monde entier que ça avait explosé un peu partout, notamment dans les villes. Mais est-ce que ça se chiffre ?
Ah oui. Alors moi, j'ai pas les chiffres pour le marché mondial, mais en France, rien qu'en France, on a un maintien du marché. Malgré 2 mois de confinement, donc c'est inespéré. Enfin, et ça c'est pour le volume du marché en valeur. Le marché a augmenté fortement.
Ça veut dire que si le volume est stable et que la valeur augmente, ça veut dire que les gens achètent des vélos de plus en plus chers.
Absolument. On parle de montée en gamme. Hein, les vélos aujourd'hui, on accepte de mettre 700 euros en moyenne. Dans un vélo, alors qu'il y a seulement 10 ans, on mettait 300 euros. Enfin, c'est très impressionnant de voir que les gens ont compris ce que c'est qu'un bon vélo, un vélo adapté à son gabarit, à ce qu'on veut en faire. Donc c'est important de comprendre qu'un vélo, ça peut être bon marché si on l'achète d'occasion, etc., mais ça peut être aussi d'un prix plus élevé si on a envie de quelque chose de vraiment adapté à ce qu'on veut en faire.
Quelle est la place, Frédéric Errand, du vélo électrique dans ce développement du marché ? Est-ce que dans ce développement de la valeur de chaque vélo, le vélo électrique eh bien, a une part importante ?
Oui, alors c'est le roi des ventes. Hein. Il a augmenté, les ventes ont augmenté de 30% en 2000, ce qui est considérable. Et c'est le cas à peu près chaque année, 20 à 30% d'augmentation presque chaque année depuis 2005. Donc on n'a pas fini d'en voir le bout et on pense qu'un jour il y aura à peu près autant de vélos assistance électrique que de vélos mécaniques. On y va, c'est avec un peu de retard sur des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Suisse, mais on est sur le même rythme de croissance.
Il y a des aides publiques pour aider à l'achat de ces vélos assistance électrique?
Oui, il y a des aides nationales, mais aussi locales, qui peuvent se combiner dans certains cas. Alors, le vélo assistance électrique, c'est surtout intéressant parce que ça permet de se passer de la seconde voiture, ou de la première, si on est encore plus volontariste, mais ça remplace plus souvent une voiture qu'un vélo mécanique. Et c'est pour cela que le vélo assistance électrique est aidé, mais il faut dire que c'est plutôt des personnes relativement âgées, mais qui justement perdent un peu de force musculaire, qui se disent « j'aimerais me mettre ou continuer à faire du vélo malgré l'âge », et qui donc achètent des VAE.
Alors cette explosion de l'usage du vélo et des mobilités douces, ça a évidemment des avantages, vous en avez largement parlé, Frédéric Héran, mais est-ce que ça pose des problèmes? Quel type de problème ça peut poser d'abord?
Ah oui, c'est-à-dire que le premier problème qui vient d'être évoqué là dans un des reportages, c'est la cohabitation piéton-cycliste. Et c'est vrai que c'est un réel problème. Et quand on regarde finalement quel est le mode parmi ces deux modes-là, quel est le plus vertueux? Quel est celui qui est le meilleur pour l'environnement, pour l'urbanité, pour la démocratie, pour l'accessibilité? Enfin, ben c'est évidemment le piéton, hein. Le piéton, c'est lui qui devrait être considéré comme le premier mode de déplacement à pousser en priorité et devant le vélo. Donc il faut que les cyclistes apprennent peu à peu à cohabiter avec les cyclistes et à leur donner la priorité quand ils sont nombreux, quand ils sont sur les trottoirs, etc. Ça va de soi, mais il vaut mieux le dire.
Oui, oui, parce que les piétons, finalement, dans cet écosystème, dans cette chaîne, j'allais dire alimentaire, ce sont les plus fragiles.
C'est ça, ce sont aussi les plus fragiles. Il faut penser aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite. Et oui, c'est à eux que la ville devrait donner la priorité. Après, les cyclistes ont évidemment beaucoup de vertus aussi. Ils sont excellents pour l'environnement, pour le porte-monnaie, pour la santé. Ne jamais oublier cet aspect qui aujourd'hui peut être le plus important. Et donc les modes actifs, hein, comme ça qu'on appelle la marche et le vélo, parce qu'on est actif, sont excellents pour la santé. On est dans une société beaucoup trop sédentaire, il est temps de bouger.
Frédéric Héran, instinctivement, on se dit que peut-être réaménager la voirie, c'est long et c'est cher. Est-ce que ça, c'est un problème?
Non, alors c'est beaucoup, beaucoup moins cher d'aménager l'espace public que de faire des transports publics, et plus encore que de faire des autoroutes urbaines. C'est la voiture qui coûte cher en aménagement routier, en aménagement en ouvrage d'art, etc. Pour le vélo, la marche, c'est beaucoup moins cher. Il faut garder les proportions, enfin, ne pas oublier que ce sont des modes économes pour la collectivité, encore plus que pour le porte-monnaie de chacun.
J'insiste, Frédéric Héran, comment on partage un urbain qui finalement n'est un espace urbain qui, notamment en Europe, hein, n'est pas extensible et qui a été modelé jusque-là, jusqu'à présent, autour de l'automobile, hein, depuis des dizaines et des dizaines d'années? Il faut quand même changer pas mal de choses.
Oui, oui. L'espace urbain est toujours particulièrement rare. Il est très disputé partout, dans le monde entier. Les trottoirs sont souvent colonisés, hein, par toutes sortes d'activités. Donc il faut peu à peu accepter de partager et de redistribuer cet espace. Et c'est très long, c'est un énorme travail. Ça peut être relativement coûteux, effectivement, de le faire, mais encore une fois, il faut faire des choix et peut-être arrêter de construire des routes et plutôt construire des espaces publics.
Au-delà de l'aspect utilitaire, hein, le mot vélo taffeur a été utilisé dans un des reportages, voire militant parfois, il faut le dire. Est-ce que le vélo garde sa dimension plaisir? Est-ce que ce marché-là, celui de « je me paye un beau vélo », bah, il existe toujours?
Ah oui, alors, donc je me suis souvent demandé, mais finalement, qu'est-ce qui rend le vélo si plaisant? Eh bien, c'est d'abord et avant tout l'équilibre sur deux roues. C'est ce qui permet à tout le monde d'avoir un large sourire. Il n'y a qu'à voir les enfants là, quand ils commencent à apprendre à rouler sur deux roues et à tenir l'équilibre. Ils ont un plaisir fou et on le garde quelque part au fond de nous-mêmes toute la vie. Voilà, je crois que c'est ça qui réunit tous les cyclistes. Et Dieu sait s'il y en a. Il y a en fait plein de pratiques du vélo très diverses qui ont été évoquées plus ou moins là dans ces reportages. Mmh. Bon, on pourra en parler encore de bien d'autres.
Oui, hein. Mais il va falloir qu'on s'arrête malheureusement, voilà, Frédéric Héran.
Ces activités sont fascinantes.
Merci Frédéric Héran d'avoir été à la conclusion de cette émission qui est désormais terminée. On espère vous avoir fait bien voyager. Merci aux radios partenaires des médias francophones publics. Radio France, Radio Canada, la RTBF, la RTS et bien sûr RFI. Merci à Claude Battista et Laurent Philippot pour la mise en onde et à Florence Ponce pour la coordination. Restez avec nous, l'info revient tout de suite sur RFI. Bonjour chez vous.